Europe 1. Europe 1.
16h-18h. L'équipe est sauvage.
Bienvenue dans cette équipe est sauvage confinée en compagnie de Mathieu Noël, entouré chacun chez soi des journalistes d'Europe 1, toujours motivés pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Eva Rock est là aussi, et puis en ligne, on va retrouver aussi des personnalités ou des artistes pour savoir comment ils vivent leur confinement. Cette semaine, par exemple, nous avons pris des nouvelles du chroniqueur de Télématin Alex Jaffray et du comédien Jean-Paul Rouve. Dans cette compilation du week-end, plein d'infos et de découvertes. Durant cette première heure, d'ailleurs, cette première heure, on parlera de Stevie Wonder, du nouvel album de Gregory Porter ou encore de Fitness Balcon. Mais avant, on prend des nouvelles d'un acteur.
C'est un bonheur, j'imagine, partagé que de recevoir même virtuellement Jean-Paul Rouve cet après-midi. La dernière fois qu'on l'avait reçu physiquement, le 4 octobre dernier, il était déjà ravi. C'est donc ma première fois en public. Je suis content que ça soit avec vous, Jean-Paul. J'espère que c'est réciproque.
Est-ce qu'il faut être sincère ou pas? C'est ça le problème.
Voilà. Jean-Paul, vous étiez venu nous voir pour la sortie d'un très beau film de Nicolas Vanier où vous voliez avec des oies. Vous étiez très content parce que vous aviez eu un plus gros cachet que les oies à l'époque, mais finalement, c'est elles qui sont libres et vous qui êtes en cage aujourd'hui, un juste retournement du sort.
Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, donc le confinement ne fait pas élever le niveau des vannes, on est bien d'accord.
Non, pas du tout. Ah ben, mais je dirais même qu'il les affaisse encore plus.
Bien sûr.
Parce que là, je suis quand même vautré dans mon canapé, si vous voulez. Non, Jean-Paul, est-ce que ce film, quand on avait parlé la dernière fois, qui était un très beau film d'ailleurs, qu'on peut, j'imagine, découvrir en VOD actuellement pour s'évader un petit peu, est-ce que vous repensez à ces jours heureux, ces jours de tournage en pleine nature, maintenant que vous êtes bloqué à Paris comme nous avec Eva?
Eh ben, je vais vous dire que ça n'est pas une souffrance pour moi, ce confinement. Mais je parle sans blaguer. C'est, ouais. Alors, attention. Vraiment, il faut dire aussi les choses, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des conditions de vie qui sont très agréables. Où j'habite à Paris, c'est très agréable. J'ai un lieu extérieur, vous voyez, je peux profiter un peu de l'air et tout. Donc c'est sûr, quand on vit dans 30 mètres carrés à 5, c'est pas la même. Et je dois reconnaître que ce moment est même plutôt un moment assez agréable pour lire. Je lis beaucoup de choses que je fais jamais parce que avec notre boulot, avec tout, on est pris tout le temps, on n'a jamais le temps de rien. Et ce sera une parenthèse dans ma vie que j'espère garder des choses de ça.
Et alors, la question qu'on se pose et qu'on pose souvent aux artistes, est-ce que c'est un moment pour vous, comme ça, pour lire, pour prendre du temps pour soi, ou c'est aussi un moment de créativité? C'est-à-dire, est-ce que là, par exemple, vous bossez sur un prochain film, est-ce que les idées viennent aussi durant ce confinement?
Alors, j'ai plusieurs choses, ça dépend. Là, par exemple, on était en train de tourner Les Tuches 4 quand le confinement est arrivé. Il nous restait 3 semaines de tournage, donc ça s'est arrêté, bien sûr. Donc là, on s'est eu pas mal avec Olivier Barou pour réécrire des scènes, parce qu'on espère tourner en juin, on croise les doigts, mais en supprimant, vous voyez, en faisant des scènes, on avait beaucoup de figurants, genre 100 personnes, tout. Ça, ce sera pas possible, certainement. Donc on est en train de réécrire. Ouais, on adapte. Donc ça, c'est du boulot. Après, pour mes projets perso, les films et tout, j'écris un film avec David Fonkinos, toujours. Là, non, vous avez raison. Là, David, pareil, ce qu'il me disait, David, il me disait, moi, j'arrive pas à écrire non plus beaucoup ces romans. Ça, c'est vrai que j'y arrive pas. Et sinon, depuis une semaine, là, il y a le programme, ce qu'on fait sur France 2, là, et tout. Là, oui, on se remet à écrire. Donc c'est un peu des deux, vous voyez, des choses que j'arrive à faire et des choses non, quoi.
Vous le retrouvez sur Instagram, sur France 2, on va en parler dans Au secours, bonjour, en VOD, dans Donne-moi des ailes, pour l'émotion, Les Tuches 1, 2, 3 pour le rire, plus qu'un acteur, cet homme est désormais une multinationale de l'entertainment, Jean-Paul Rouve, stays with us.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage.
Écoutez, l'équipe est sauvage spéciale, le monde d'après qu'un Chinois a eu l'idée brillante de se faire un steak de pangolin, jour 38.
Mais non,
vous êtes bête. Et en ces jours difficiles pour notre pays, Eva, et même si Emmanuel Macron fait ce qu'il peut, vous êtes nombreux à regretter le quinquennat d'un leader qui avait su, en son temps, prendre des mesures fortes.
La loi Tuche, elle vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer, et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre du jour férié. Il suffisait d'y penser.
Quelle bonne idée. C'était le confinement avant le confinement, en fait.
Il y avait des bonnes idées,
c'est vrai.
Dans ce quinquennat, quand même.
Oui.
Jean-Paul Rouve, très actif, on l'a dit, sur Instagram, avec vos amis en Insta Live. Vous participez aussi à la nouvelle pastille de France Télé, Au secours, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste?
Ça s'est fait tellement vite. C'était très agréable. C'est très drôle. C'est Philippe Méchelin et Julien Hervé. Alors, Philippe Méchelin et Julien Hervé, pour vous dire, je les connais bien, puisqu'on écrit Les Tuches ensemble.
Ah oui.
Et, et il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Philippe qui a créé à la base le personnage des Tuches, qui a fait les Tuches, le premier Tuche et tout. Donc voilà, et ils m'ont appelé pour me dire, écoute, il y a France 2 qui nous, voilà, c'était genre le mardi. Oui, c'est ça, le mardi pour une diffusion le dimanche. Vous voyez, c'est un truc les délais sont extrêmement courts. Oui. Pour une pastille de 5 minutes, une sorte de SAV où les gens posent des questions et voilà, on écrit des vannes. Est-ce que tu veux faire ça avec nous? J'ai dit, bah, bien sûr, les gars, avec grand plaisir, ça me fait bien marrer. Donc voilà, avec Renaud Levent-Kim et Guillaume Lacroix, enfin, tous les quatre. Et puis on s'amuse bien. Moi, je me suis pris au jeu, donc j'écris un peu avec eux des sketchs. Ils font la majorité des trucs, hein. Mais et puis voilà, on tourne ça. Ben évidemment en confinement, donc on s'amuse bien parce que c'est. Moi, j'ai l'impression de retrouver les années quand on a débuté, quand on était à Comédie avec les Robin des Bois, où tout se faisait qu'un bout de ficelle. Donc c'est assez plaisant à faire avec des perruques pourries, des costumes pourris.
Un budget limité niveau costume, oui.
Ouais, et vous avez trouvé un personnage rien que pour vous, en fait, Jean-Paul Rouve.
On en a pas mal, ouais. On essaie de. Bah, en fait, ça c'est pareil, c'est les habitudes des sketchs et tout. On aime bien ça. Moi, j'aime bien les personnages récurrents. Ça me fait rire, quoi. Les mecs qu'on retrouve qui ont toujours les mêmes vannes. Moi, ça me fait rire. Et donc, oui, on a inventé un personnage qui est une sorte de professeur. Enfin, voilà, c'est le professeur Raoult. Enfin, c'est le professeur Raoult à la base. Mérou, mais lui, à chaque fois, il y a eu le professeur Mérou. Après, je suis arrivé en chantant Belle. C'était le professeur Garou. Enfin, vous voyez.
Il y a eu le professeur Bambou hier soir.
Bambou, il y a eu Bambou. Et là, je peux vous dire qu'on en prépare. C'est du grand n'importe quoi et ça nous fait pleurer de rire. C'est complètement con.
Otto, bonjour. C'est aussi l'idée de faux experts qui répondent à des questions qu'on peut tous se poser sur.
Ouais,
le confinement.
En fait non. C'est ça. C'est un standard et puis comme s'il y avait un comme le 15, mais là pour poser des questions. Quand on a une question, eh ben on répond. Donc il y a des comédiens qui font les standardistes. Il y a Alice Belaïdi et Loïc Legendre. Et puis il y a des artistes connus ou pas hein, qui font les questions, qui appellent. Il y a Ellie qui en a fait, c'est Moon, il y a Marina, il y en a plein. Il y a qui?
Il y a Bruno Solo.
Olivier Barou, Bruno Solo, Camille Lelouch. Hier, il y avait Horatica. Enfin voilà, on en fait plein, quoi. On 5 minutes par jour après le 20h.
Voilà, et franchement, c'est très très réussi.
Bah merci, on se marre bien en fait. On s'envoie des textos même la nuit et tout pour quand on a une vanne. Enfin, par exemple, vous voyez tout à l'heure, avant de vous avoir au téléphone, je regardais BFM. Enfin, on peut le dire, on s'en fout la chaîne. Je regardais une chaîne d'info et on s'en fout. Et il y avait un mec qui disait, un restaurateur, donc il disait, bon, je peux comprendre. Il disait, voilà, on peut pas ouvrir, c'est dur le boulot. Je comprends. Et à un moment, le mec dit cette phrase géniale : nous sommes des vendeurs de bonheur. Et ça, moi, vous voyez, vendeur de bonheur, ça me fait rire. Donc tout de suite, j'envoie à mes potes. Et voilà. Et c'est parti. Et voilà, et c'est parti. Et avec ça, on peut écrire un sketch.
Alors, le concept de au secours, bonjour, on l'a bien compris. Ce qu'on a un peu plus de mal à comprendre, on a un peu plus de mal à comprendre la ligne directrice de vos Insta Live. Le 12 avril dernier, c'était avec Gérard Darmon. Le thème était on parlera philosophie, astronomie et pute aussi. Alors,
c'est ça.
De quoi avez-vous le plus parlé finalement?
On a parlé le plus de rien de tout ça en plus. En plus, c'est vrai, on parle de rien de tout ça. Non, mais on essaie de trouver des thèmes. Alors, celui avec Olivier Barou, c'était le code Evie.
Ah, c'est pas mal.
Ça, c'est porteur.
C'est pas mal.
Voilà, le code Evie, c'est pas mal. Les gens, c'était intéressant. C'est difficile.
Une palme d'or d'honneur pour les Tuches dans 50 ans à Cannes. On ne sait pas. Peut-être. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Jean-Paul Rouve, d'avoir été avec nous cet après-midi. Jeff Tuche a-t-il un dernier message adressé
à la
nation ?
Non, pas cet après-midi. Ce matin. J'en ai marre de tout ça, moi.
Ce matin, puisqu'il dit.
Non, mais c'est vrai. On
dit
français,
la vérité. Il parle vrai.
On leur dit rien. Mais je parle vrai. On ne dit rien sur les masques. On ne dit rien. On ne dit rien sur la sortie du confinement. On ment sur les horaires de cette émission. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'après les Français fassent plus confiance? C'est normal.
Professeur, calmez-vous.
Professeur Mérou, on se calme.
Pardon,
excusez-moi. Merci, Jean-Paul Rouve, d'avoir été
Merci
avec nous.
Merci à vous. Hein.
À très bientôt.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Plein feu sur les sportifs des balcons. Eux se rencontrent en fin de journée, pratiquement tous les jours. Et ils sont de plus en plus nombreux, les habitants de résidence, à participer aux séances de fitness collective. On en a parlé dans l'équipe est sauvage cette semaine avec Mathieu Noël et Eva Roch.
Vous profitez du confinement pour faire le ménage chez vous? Profitez-en aussi pour faire le ménage dans vos neurones. Écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures de bonne humeur au service de votre savoir en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1. Certains vous informent, d'autres vous divertissent. Notre premier concurrent du jour tente, lui, de faire les deux. Véritable funambule de l'info, Arthur Mbaché, notre correspondant à l'Est, s'est rendu célèbre pour ses sujets hybrides à la frontière du journalisme et du musical, du reportage et de la performance surréaliste.
Une caméra fixe sur une cigogne immobile qui regarde passer les passants qui passent pas puisqu'il n'y a pas un chat dans les rues à cause du virus. Ça reste nul, disons-le. Si ça vous tente d'avoir une recette simple et évidemment délicieuse de pain maison, idéale en cette période de confinement, changez de radio.
Avec vous, on ne sait jamais à quoi s'attendre et c'est ce qu'on aime avec vous, Arthur Mbaché. Avec quel sujet allez-vous encore nous émerveiller aujourd'hui ?
Avec une séance de fitness collective. Imaginez, Mathieu, il est 18h. L'émission se termine.
Alors là, Arthur, pardon de vous couper, mais vous venez déjà gagner 3 points par Mathieu.
Je sais.
Ah oui, ouais, à cause de l'ambiance piano bar.
Ah bah, le piano bar, c'est Keith Jarrett, mon cher ami.
Ah d'accord, ah bah, bien joué. Oui, effectivement, piano bar, Keith Jarrett, effectivement. J'entends mal avec le casque.
Il est donc 18h, l'émission se termine, le soleil de fin de journée vous donne des reflets dorés à votre cognac. Vous êtes sur votre balcon, pas fort, donc vous avez mis du Keith Jarrett pour accompagner votre lecture du temps retrouvé de Proust. Vous êtes bien.
Bien sûr, c'est tout moi.
Et puis tout à coup, il y a ça.
Oh mon Dieu.
Descends plus tes fesses, Sonia, voilà. C'est bien, Séverine. Regarde devant toi, Patrick. Allez, lâche pas, Liliane. 2, 3, 4. Eh oui, vous n'aviez pas remarqué, mais des individus en habit décathlon, basket souvent fluo, se sont postés. Chacun sur son balcon. Dans cet ensemble d'immeubles assez récents, vous avez par malheur décidé d'habiter et dont les balcons sont positionnés de telle manière à ce qu'il est possible de se voir et de s'entendre entre voisins.
Oh mince.
Et donc, un habitant, Arthur, a lancé cette mode invraisemblable du fitness des balcons.
Et oui, malheureusement, dans un de ces appartements strasbourgeois, vit ce qu'il faut appeler un coach sportif. Il s'appelle Juan. Et il ose dire à France 3 Alsace que, je cite, « tout le monde s'éclate
».
Au point précisément qu'il y en a même qui viennent de, je cite toujours, « la résidence de derrière ». Tous les soirs, dit-il, il y a un voisin qui met du son pour mettre de l'ambiance et pour encourager le personnel médical. Le voisin amateur de grande musique, je vous le précise, c'est Victor du 4e. À partir de là, ajoute Juan, certains, en fait on sait que c'est lui, mais bon, il dit certains, ont lancé l'idée d'une séance de sport en musique, tous ensemble. Alors, dit-il, modestement ou pas, j'ai proposé mes services.
Ah, c'est peut-être très sympathique tout ça. Est-ce qu'il y a du monde ?
Mais le pire, c'est qu'il y a du monde. Ce trentenaire pas souple du tout en maillot Mbappé, ce quinca en eau qui a apparemment vraiment du mal sur les montées de genoux, cette étudiante essoufflée, le visage rouge, ravie de ce moment de communion dans la sueur, tous ensemble, dans des postures ridicules, ce qui apparemment rapproche. Alors, la bonne nouvelle, la lueur au bout du tunnel, c'est que quand le confinement sera terminé, vous pourrez profiter à nouveau du cognac, de Keith Jarrett et de Proust, bref, du calme. Ne rêvez pas, nos amis sportifs de balcon ont l'intention de se retrouver pour fêter la fin du confinement en bas pour un barbecue imaginé génial. Liliane, Séverine, Patrick, les survettes des quatre, la sono et les chipots.
On dirait une chanson de Patrick Bruel.
Arthur Mbaché, oh, vous quittez Dieu, de plus en plus le journalisme pour rapprocher de l'humour.
Sur une pente dangereuse.
Ouais. Vous êtes sur une pente savonneuse, mais qui vous réussit très bien.
Ah, mais merci pour ce fou rire, Arthur. Mon Dieu.
Arthur Mbaché. Eva, je crois que vous avez une info en plus qu'Arthur n'a pas et que vous vouliez lui communiquer.
Sa femme est enceinte, elle est très très enceinte. Elle attend des triplés.
Eh bien, la bonne heure. Bravo, Arthur.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël et sa complice. Eva Rock, en cette période de confinement, elle pense à la jeunesse et nous propose sa sélection de programmes pour les moins de 12 ans. L'un retrouvé sur arte.tv, l'autre sur france.tv. Allez, c'est le moment de prendre des notes.
Les enfants, c'est bien connu, s'amusent d'un rien. C'est d'ailleurs parfois touchant, sauf en période de confinement. Car à longueur de journée, le fait qu'ils s'amusent d'un rien vous empêche, vous, de télétravailler.
Jour. Nuit. Jour.
Ne vous laissez plus distraire par l'énergie épuisante de vos mioches. Canalisez-la. Eva Rock vous explique comment, pas vrai Eva?
Ouais, mais moi si j'entends cet extrait, je me mets tout de suite à le faire. Hein. pour agacer tout le monde. Jour, nuit, j'adore ce jeu.
C'était pas mon intention, Eva. Concentrez-vous sur votre chronique.
Aujourd'hui, c'est la fête pour les moins de 12 ans avec deux programmes que j'affectionne particulièrement. Le premier est d'origine québécoise et il est disponible sur le site arte.tv. Vraiment top, c'est son nom, ressemble à une sorte d'encyclopédie moderne. En fait, en un seul numéro, d'une durée de 17 minutes environ, hein, les enfants vont tout savoir, ou presque, sur des sujets aussi divers que Napoléon, les genres littéraires, le castor, les mécanismes de la bourse, comment on détermine la valeur de l'argent, ou encore, qu'est-ce que le B15 ?
Si je te dis B15, ça te dit quelque chose ? Non, je te parle pas de bingo, mais d'un iceberg gigantesque qui s'est détaché de la banquise de l'Antarctique en 2000. Il faisait 295 km de long et 37 km de large. Et c'est plus grand que l'île d'Anticosti au Québec.
B15 ou le nom d'un bout d'iceberg. Alors pourquoi ce programme...
Avec le B52.
Exactement. Et pourquoi ce programme s'appelle vraiment top ? Parce qu'en fait, tous les sujets sont abordés sous forme de top. Le top 5 des infos à savoir sur les icebergs, le top 3 des genres littéraires. Le ton est vraiment très décontracté, comme vous pouvez venir de... Le ton est résolument décontracté, comme vous l'avez entendu. Et les infos sont déclinées en dessin avec un graphisme différent pour chaque sujet. C'est vraiment ludique et pédagogique, idéal pour gagner au Trivial Poursuit, hein, je vous le dis tout de suite, et c'est à découvrir sur le site arte.tv.
Eva Rock est vraiment en forme, comme vous venez de l'entendre.
Oui.
À quoi ressemble le deuxième programme du jour, Eva ?
Eh ben, on va garder le même ton, mais pour parler d'un sujet unique, l'art. C'est sur le site France.tv. Les enfants ont rendez-vous avec BAM, de l'art dans les épinards. Chaque épisode commence avec les réflexions des enfants sur une œuvre d'art, en l'occurrence, avec l'extrait qui suit, la Vénus de Milo.
Il lui manque un orteil.
Ah oui, il lui manque un pied. Il lui manque aussi un doigt de pied et des bras. C'est horrible.
Et les bras, c'est plus utile que des doigts de pied.
Mais elle a la belle chance, elle a perdu les deux.
Elle a la poisse.
Ceci est la statue la plus célèbre de l'histoire de l'art. Et c'est pas parce qu'elle peut pas taper dans ses mains qu'elle ne mérite pas d'applaudissements. Et oui, en peinture, il y a la Joconde. En musique, il y a Beyoncé. Et en sculpture, il y a cette statue sans bras.
J'adore ce programme de 5 minutes. Alors d'abord parce que je trouve très malin de débuter la séquence avec les commentaires des enfants qui ont quand même un regard frais sur ces œuvres. Puis ils sont dans leur logique et la lecture qu'ils font des peintures et des sculptures est souvent très juste. Ensuite, le ton utilisé pour décrire ensuite l'œuvre, pour l'expliquer, la recontextualiser apporte, je trouve, une modernité à des formats qui jusqu'à présent sont souvent poussiéreux ou en tout cas trop scolaires. Voilà. Et puis les références à la pop culture comme Beyoncé dans l'extrait que j'ai diffusé permet quand même aux enfants d'aiguiser leur regard, de former aussi leur esprit critique, notamment face aux images dont nous sommes abreuvés à longueur de journée. Voilà, c'est ambitieux, mais c'est plutôt réussi. Ça s'appelle BAM, du beurre dans les épinards, et c'est à consommer, mais sans aucune modération, sur France.tv.
Et BAM, c'était BAM. La chronique des Varanques. Voilà.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage.
Nous sommes avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock, oui, jusqu'à 18h sur Europe 1. Au cours de sa carrière, Stevie Wonder a reçu pas moins de 25 Grammy Awards et figure parmi le top 5 des artistes les plus récompensés. Mais il y a tant à dire, tant à raconter sur Stevie. Jean-Philippe Ballas va prendre le relais. C'était son sujet mercredi sur Europe 1.
Écoutez, l'équipée sauvage, la lutte impitoyable opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G, c'est vrai. Mais parfois, la compétition s'efface devant l'émotion. Car oui, ce week-end, c'était les 50 ans de Jean-Philippe Ballas. Ah ouais, on a fait un apéro FaceTime, c'était hyper sympa. En même temps, Jean-Philippe est un tel déconneur, avec lui, on se fend toujours la poire.
Alors c'est John Lennon qui fait demi-tour sur ce même passage piéton. Oui. Qu'est-ce que tu fous ? Lui demande les trois autres. Il répond, non mais j'ai oublié mon autorisation de sortie et ça me saoule un peu.
Oui. Ah putain, on se marre bien avec Jean-Philippe. Aujourd'hui, Jean-Philippe, vous ne nous parlez ni des Beatles, ni de Bruce Springsteen. Vous sortez un peu de votre zone de confort avec Stevie Wonder.
Oh là là, les attaques.
Oui, c'est un peu bas, je ne relèverai pas, Eva. Oui, effectivement, j'ai envie de vous parler de Stevie Wonder parce que vous l'avez peut-être vu il y a quelques jours lors de ce grand concert mondial en confinement. Oui. Il y avait quelques légendes, il y avait Paul McCartney, il y avait les Rolling Stones. Alors, entre nous, les Stones, c'était pas génial.
Je pense que c'était en playback même, si je m'abuse.
Alors lui, en tout cas, il n'était pas en playback, il était en direct. C'était Stevie Wonder. Très belle performance. Il a repris cette jolie chanson de Bill Withers qui nous a quittés il y a quelques semaines. C'était Lean On Me.
Lean on me when you're not strong and I'll be your friend. I'll help you carry on.
Alors je sais pas vous, mais moi dès que j'entends la voix de Stevie Wonder, ça me met tout de suite des frissons. Il va fêter ses 70 ans dans pas très longtemps, dans quelques semaines, ce sera le 13 mai. Alors il fait partie de nos icônes les plus jeunes finalement, il est beaucoup plus jeune que Mick Jagger par exemple, mais il est là depuis longtemps parce qu'il a commencé très très tôt. Et son premier album, il avait sorti à 11 ans, Stevie Wonder, à l'époque on l'appelait Little Stevie, Little Wonder, c'est la petite merveille. Avec ses claviers, avec son harmonica, c'est un excellent joueur d'harmonica. Et puis alors, il y a surtout ce groove absolument incroyable, en 72 notamment, avec Superstition. J'espère que vous avez lâché les tomates, les courgettes dans la cuisine et vous chantez. Vous pouvez monter sur le banc.
Mathieu, pas de problème. J'ai même pris une courgette que j'ai transformée en micro pour chanter avec Stevie.
J'ai eu peur.
Alors, faut savoir que dès le début de sa carrière.
Je suis désolé.
En même temps, la vanne d'Eva est excellente. Alors, dès le début de sa carrière, Stevie Wonder va être le protégé de Berry Gordy. Berry Gordy, c'est le patron de la Motown à Détroit. Motown, c'est la ville de l'industrie automobile, la ville des moteurs, Motown. Et en 76, il va sortir, alors, ce qu'on considère comme son plus bel album, c'est un double.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle quand on s'ennuie avec soi-même. Vous savez, c'est l'histoire qui m'a tellement frappé et qui arrivait à un certain nombre de gens, mais notamment à mon père. Mon père était un beau mec. C'est-à-dire, il y a eu un vrai déclin génétique depuis, et c'était un beau mec. Et il avait 86 ans, c'était 2 ans avant sa mort, et j'étais avec lui à une terrasse de café. Et une femme passe, vous savez, comme une passante, comme on dit dans Baudelaire, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet, elle passe, il lui sourit, elle répond à son sourire. Et j'entends mon fou de père dire « Ah, si j'avais encore 80 ans !»
Génial.
Donc il y a peut-être un truc génétique là-dedans.
Alors, tout à l'heure, Eric Orsenna, on connaît votre érudition, vous nous parliez, vous citiez Proust. Vous avez commencé par Tintin, plus modestement.
Mais pas plus modestement, c'est Tintin qui m'a donné envie, clairement, de voir la planète. Puisque nous, on habitait Paris, au coin du boulevard Pasteur et la Haute-Vaugirard, et puis en allant en Bretagne, c'est là où ma passion absolue pour la Bretagne est née.
Ah, j'ai cru pour Anne Le Gall, d'accord, mais pas pour la Bretagne.
Écoutez, on parlera de ça un petit peu plus tard, parce que je suis entendu.
Ah oui, c'est vrai, vous avez raison.
Et je suis marié.
Oui. Oui. Ne chipotez pas.
Ce qui n'est pas contradictoire. On peut être marié et entendu. Et donc voilà.
On parlait de Tintin, elle, ça serait plutôt la Castafiore. Face à vous, Eric Orsenna, celle qu'en interne on appelle The Brain. Chaque jour, Eva Rock met au défi l'invité de la base sur un questionnaire de culture générale. Voici notre célèbre quiz. Vous êtes prête, Eva ?
Non.
Parfait. Eric Orsenna, c'est pas tous les jours que nous recevons dans l'émission un membre de l'Académie française. Par contre, c'est tous les jours qu'à mes côtés, nous avons la présence d'une personne qui a déclaré avoir fait plus d'études que Simone de Beauvoir. C'est pourquoi nous allons à présent faire un duel sur la langue française. Eva Rock, oui. Que désigne l'adjectif nullipare ?
Nullipare ?
1. Une femme qui n'a jamais accouché. 2. Une action qui n'a jamais existé, ni même été pensée. Ou 3. Une personne qui s'est mise nue, mais pas assez longtemps pour qu'on puisse se rincer l'œil.
Est-ce que vous avez le droit
de donner la réponse ? Non, vous devez choisir parmi ces 3 propositions.
De m'épeler le mot ou pas ?
Nullipare. Nullipare.
J'aurais dit la 2.
Vous auriez dit une action qui n'a jamais existé. Pas du tout. C'est une femme qui n'a jamais accouché, ou en zoologie, une femelle qui n'a pas encore porté. Vous coucherez moins bête.
Ce qui est un mot absolument scandaleux.
Scandaleux, oui, qui devrait être banni.
Mais attends, il va être... Alors, le problème, c'est qu'on est un peu lent à l'académie, puisqu'on est à la lettre V. Donc, le temps qu'on revienne à N, en dépit de mon immortalité, il y aura au moins 5 personnes qui se sont succédées sur mon fauteuil. Mais dès maintenant, je vais faire une... Voilà, parce qu'il y a les gilets jaunes et il y aura les habits verts qui vont prendre... Vraiment, c'est une honte, nullipare. Mais ça veut dire que si on n'a pas, fait d'enfant, enfin, fabriqué d'enfant, on est nul.
Ouais. Ouais.
Et non avenu. C'est des mots... Il y a des mots qui sont terribles, parce qu'il y a des mots qui vous assignent à résidence, vous condamnent pour toujours.
Bah heureusement, ce mot-là...
C'est une horreur.
Nullipare, on ne l'entend pas souvent.
Mais j'ai droit à un point.
Mais vous n'avez droit à rien du tout.
Zéro point.
Orsena.
Oui, oui. Pardon.
Qu'est-ce qu'une fontaine ubérale ? 1. Une fontaine qui n'a jamais cessé de fonctionner. 2. Une fontaine à laquelle on ne peut boire que si on a un compte Uber. Ou 3. Une fontaine où l'eau coule des seins de sculptures féminines.
Alors là, franchement.
Ah, je vous colle !
Mais j'aimerais que vous me la présentiez surtout, cette fontaine.
Enfin, donc vous avez quelque part donné la réponse. Puisque c'est une fontaine dont les sculptures féminines voient de l'eau jaillir de la pointe des seins. Uber, en latin, mamelle. Vous y penserez quand vous commanderez sur Uber Eats. Eva Rock, Eric Orsena, d'où vient le mot baragouiné? 1. Du fait que quand on a bu, on ne comprend plus ce qu'on dit. 2. Des Bretons, dont le patois était incompréhensible, faut dire ce qui est. Ou 3. D'un établissement réservé aux femmes, ce qui était incompréhensible pour les hommes.
Alors attendez, d'abord je m'insurge, ce n'est pas un patois, c'est une langue. Après, continuez votre émission, s'il vous plaît.
Ah ben moi,
continuez votre émission,
deux.
S'il vous plaît.
Vous non, dites
attends,
la réponse 2.
Oui.
Et Eric, vous dites aussi la réponse 2.
Bah attendez, évidemment.
Oui, parce que vous connaissez la réponse.
Bah, évidemment,
contrairement à Eva qui dit comme vous, parce que bref.
Évidemment.
Et oui, ça vient du breton.
La belle langue bretonne. Nous ne sommes pas nombreux, pas tout nombreux en fait. Nous ne sommes que deux à l'Académie française à aimer les langues, à respecter les langues régionales. Il y a Barbara Cassin, qui vient d'être élu, qui a fait un discours absolument magnifique en disant que les langues, c'est la diversité, c'est les langues, c'est pas une seule langue. Et le français n'a pas le monopole pour exprimer le monde.
Alors le breton et baragouiné.
Moi je défends Diwan.
Vous êtes capable de nous dire baragouiné, d'où ça vient, ce que ça veut dire?
Le vin et le vin, bien sûr.
Le pain.
Le pain et le vin.
Et le vin.
Et le vin.
Bara,
ben bien sûr.
Le pain
bara,
et vin. Gouiné.
Voilà.
Ça a donné baragouiné.
Baragouiné.
J'aimais déjà ce mot, et voilà. Plus,
vous l'aimez encore plus.
Ouais.
Effectivement.
Ouais.
Eric Orsena, un amélanchier. C'est l'ancêtre de la brosse à chiottes, un très bel arbuste d'Amérique du Nord ou une personne qui n'a jamais voté pour Jean-Luc Mélenchon.
Eh bien, c'est le numéro 2, c'est un très bel petit arbuste qui donne en plein milieu de l'hiver des petites fleurs jaunes qui donnent une sorte d'annonce du printemps.
Et bien, comme quoi, l'Académie française, c'est pas bidon, hein.
Ouais.
Et baroque.
Ah bah non, je vais pas jouer là.
Attention, parce que là, on monte en gamme.
Ah bon,
on monte en poésie.
Oui.
On atteint les cimes de la poésie française. Et baroque, une branlette. Ce n'est pas qu'une pratique solitaire bien connue, c'est aussi une technique de pêche très en mouvement, un ancien ustensile de cuisine pour sécher la salade.
J'ai droit qu'à deux possibilités.
Oui, bah c'est mieux en fait. Moins vous avez de possibilités, plus c'est plus de chances de gagner.
Eh ben, je penserais bien à la salade.
Vous penserez. Eh bien, c'est une mauvaise réponse.
Oui, évidemment.
C'est une technique de pêche,
évidemment,
où l'on donne un mouvement continuel.
C'était
à l'amorce de la ligne,
blague.
Qui n'est pas effectivement sans rappeler une autre pratique. Qui remporte ce quiz? Oh, Eric Orsena qui triomphe des baroques dans un questionnaire portant sur le français. Si on me l'aurait dit, j'aurais pas cru.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, Philippe Vandel.
Demain, dans Culture Média, Louis Dreyfus, le patron du journal Le Monde, il a entendu ce que disait notre invité vendredi au sujet de la faillite de Prestalis, il viendra répondre. Et puis Dominique Besnéard, le créateur de 10%, pour parler cinéma, et le réalisateur Olivier Assayas.
Europe 1, Culture Média.
À demain, 9h30.
C'est le
Leclerc Live.
Les jeunes Français passeraient plus de 2 heures par jour sur Internet sur leur mobile.
À ce rythme-là, les portefeuilles déclarent forfait.
Pas forcément. Avec l'offre Réglo Mobile de Leclerc, c'est 50 gigas d'Internet par mois, appels, SMS et MMS illimités à seulement 9,95 € et sans engagement.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site.
Face au coronavirus, nous devons rester chez nous pour nous protéger et protéger les autres. Mais en période de confinement, les risques de maltraitance sur enfants augmentent et nos chances de les repérer diminuent. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants victimes de violences ont besoin de notre vigilance à tous. Alors si vous êtes témoin de maltraitance ou que vous entendez des bruits suspects dans votre voisinage, n'attendez pas. Dans le doute, appelez le 119 ou signalez-le sur allo119.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Le nouvel album de Gregory Porter devait sortir le 17 avril. Et bien, il va falloir attendre encore un petit peu. L'occasion de nous pencher sur cet artiste avec Mathieu Noël, Eva Rock et Fred Goati.
Pour repartir la tête haute, coiffée de la scintillante couronne de chroniqueur du jour qui récompense chaque après-midi le plus méritant d'entre eux, nos concurrents sont prêts à tout, y compris à renoncer à toute forme de dignité journalistique. Comme nous avons pu le vérifier la semaine dernière avec Fred Goati, qui a vraiment tout tenté pour essayer de ramener les points.
Mais si, Eva si, si, Mathieu si, si vous pouviez voter pour moi.
Fred, je comprends hein, votre soif de victoire, mais je crois qu'à un moment, il faut quand même d'abord se respecter. Pour chasser ce douloureux souvenir, qui en plus était soldé par une défaite, je vous propose, Fred, de nous parler de Gregory Porter, l'idole d'Eva Rock.
Ah oui, c'est vrai.
Rendez-vous compte, 10 ans déjà que Gregory Porter fait partie de notre univers. Alors,
avec ses airs de gentil géant, ses costumes impeccables, sa fameuse casquette cagoule et surtout, surtout, sa voix de baryton sensuelle et chaleureuse. Vous ne trouvez pas qu'il, tout, en fait, tout nous semble aujourd'hui familier chez lui?
Oui, c'est vrai. Bah,
moi aussi. Eh oui, eh oui. Ah bah, bon, commençons par le commencement avec celui qui lui a donné la foi. Un dieu aussi, dans son genre.
Non, Mathieu, non, ne gâchez pas tout.
C'est elle qui avait chanté « Dieu m'a donné la foi ».
Nat King Cole.
Ah, oui. Ouais. C'est pas mal aussi. Just me, let's find a cozy spot to cuddle and woo.
Just us, just we. Alors, parmi les influences majeures de Gregory Porter, il y a Nat King Cole, donc, mais il y a aussi Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Donnie Hathaway et un certain Marvin Gaye.
Oh, elle est géniale cette version.
Qu'est-ce que cette version, Fred?
Non, mais les cadeaux, je connaissais pas.
Ah, là, c'est un vrai cadeau,
fois,
ça.
Quoi.
Ah,
c'est Yesterday
ouais.
par Marvin Gaye.
Je
ne
savais pas qu'il l'avait reprise. Oh, là, là,
ah, c'est beau,
c'est
ça.
Bien, ça.
Oh là là, ouais.
Bon, alors tout ça pour vous dire que, comme ses idoles, hein, Gregory Porter s'est imposé d'emblée par la grâce de sa voix. Mais avant d'enregistrer son premier disque, assez tardivement, hein, à 40 ans, bah, il a appris le métier à New York, on Broadway, sur Broadway. Il a emmagasiné beaucoup, beaucoup d'expérience en étant notamment la vedette de plusieurs comédies musicales, dont une s'intitulait, tiens donc, Nat King Cole, Enemy. Alors, allez vous étonner qu'après ça, la maîtrise, enfin, que dis-je, la magie soit là dès la première chanson de son premier album, en 2010. I've been searching all the corners oh là of là. My room. Wow.
Oh là là.
Sweeping dust and memories. Moi, je trouve qu'il y a, dans sa voix, il y a un côté, dans la perfection, dans la justesse, il y a un côté Anissé Mbida. Je ne sais pas si ça vous rappelle, c'est notre chanteur jazz à nous. Je trouve que ça me rappelle
vous
ça.
Vous gâchez tout, Mathieu.
Oui, c'est vrai qu'il y a, moi, je dirais quand même qu'il y a plutôt un côté sous les gospels.
Ah oui, on va dire ouais, ça.
C'est pas trop, c'est vrai.
Plus évident, en tout cas, que le côté pianiste de bar voilà. chez Keith Jarrett.
C'est hein, ça, voilà.
Alors,
oh là,
ça, c'était pour hier.
La petite pique, parce que je n'ai pas reconnu mon idole Keith Jarrett hier et j'ai dit musique de piano bar alors que c'était kiff. Autant pour vous. Donc oui, alors, il a côté un côté soul et gospel. Parlez-nous de ça.
C'est vrai. Alors le côté soul de chez Gregory Porter lui vient plutôt de son amour donc pour Donnie Hathaway, Marvin Gaye et Michael Jackson aussi, très important. Alors quand on gospel, bah, c'est son enfance, c'est son éducation, c'est sa culture, c'est sa maman, très croyante. À votre avis, la première fois que Gregory Porter a chanté en public, c'était où?
Dans une église, forcément.
Bah, dans une église, oui. Évidemment. Évidemment. Alors oui. Oui, c'est vrai. Gregory Porter est un immense chanteur de jazz, mais l'héritage de la soul et sa culture gospel, bah, ont fait de lui un chanteur complètement unique. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Ça, c'est Liquid Spirit. C'était un extrait de son premier disque, Blue Note, parce qu'il enregistre aussi pour le célèbre label Blue Note. Je vais vous dire une chose. Gregory Porter, c'est pas compliqué. Il sait tout faire. Il écrit et compose ses propres chansons, paroles et musique. Donc, il a chanté en duo avec l'un des chouchous d'Eva, je crois, Jamie Cullum.
Ah oui.
Il a chanté en duo avec Herbie Hancock, avec Stevie Wonder et même avec Eddie Mitchell. Alors, croyez-moi, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Avec lui. J'ai eu le privilège, oui, d'écouter son nouvel album, All Rise. Allez, je me lâche. Cet album, bah, c'est son meilleur. C'est un vrai petit chef-d'œuvre.
Carrément, un chef-d'œuvre. Alors, il devait sortir vendredi dernier, mais comme beaucoup d'albums, il a été repoussé.
Eh oui, il faudra donc patienter jusqu'au 28 août pour que son prestigieux label Blue Note le sorte. Mais, on peut déjà écouter 3 extraits sur les plateformes de streaming, les Spotify, les Deezer, tout ce que vous voulez, dont un qui vient juste d'être mis en ligne, qui s'appelle Thank You, un titre très gospel, où il remercie Dieu, évidemment, mais aussi tous ses fans, dont Eva, et moi, bien sûr.
C'est hyper gospel. Là, on est dans Sister Act.
Si je peux me permettre, allez voir sur le site de Taratata tous les passages qu'il a fait sur Taratata. Il y a aussi des images de ses répétitions pour l'émission qui sont absolument incroyables. Et vous allez vous rendre compte qu'en plus d'être un immense artiste, c'est un monsieur extrêmement généreux et extrêmement aimable avec tout le monde. Et c'est, vraiment, c'est, ça ressort de toute la musique qu'il offre aujourd'hui. Moi, je suis absolument fan de ce garçon.
Eh bien, nous sommes au moins deux, si ce n'est beaucoup, beaucoup plus.
J'espère qu'on est beaucoup plus. Mathieu, vous êtes convaincu par les reporters.
Je ne m'étais jamais penché sur la question, mais là, je peux vous dire que je vais... j'étais un peu passé à côté du phénomène, et bien là, je vais l'écouter attentivement. Merci beaucoup, Fred Goetti. Au fait, Eva, comment ça se fait que vous soyez si fan de Gregory Porter ? Vous l'avez rencontré ?
Alors, dans des conditions un peu spé, mais...
Incorrigible, coquinette.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, telle est la devise de Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock, sans oublier nos chroniqueurs compétiteurs. Et d'ici à 18h, eh bien on va parler de Netflix qui se met au film Patrimoine, de l'impact du Covid-19 sur la météo. On a trouvé aussi de l'argent magique, explication avec notre expert en économie. Au programme également, les mystères de la chauve-souris et les changements de vie à l'issue du déconfinement. Mais avant, c'est avec une personnalité que nous avons rendez-vous maintenant.
La dernière fois qu'on l'avait reçu en studio, il avait lancé en arrivant cette phrase qui avait fait frissonner d'extase Eva Rock, embrasant son imaginaire.
J'ai une grosse machine avec moi.
Aujourd'hui, Alex Jaffray est en ligne avec nous. Et ma première question sera toute simple. Alex, est-ce que vous avez, oui ou non, votre grosse machine avec vous ?
Je peux même dire qu'elle a un petit peu grossi depuis.
Mais comment ça ? Qu'est-ce que c'est cette histoire ?
Oh mon Dieu, il vous tente, Eva.
Si on parle là-dedans, mais non, oui. En fait, j'ai plus de matériel chez moi qu'au studio puisque j'ai tout ramené au moment du confinement. Donc, je croule sous les sampleurs, les synthés, les ukulélés et autres instruments étranges.
Alors, Alex Jaffray, on rappelle qui vous êtes. Vous êtes un compositeur. Ça, les gens ne le savent pas forcément. Vous avez composé de nombreux génériques d'émissions. Vous composez pour la télé, pour les téléfilms aussi. Mais vous êtes aussi un personnage de Télématin. Vous nous transmettez votre passion de la musique avec parfois des tutos, des chroniques. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Ça ressemble à quoi le confinement pour vous ? Est-ce que finalement, ça ressemble pas à la vie de tous les jours quand on est compositeur, le confinement ?
C'est vrai que c'est assez étrange parce que le métier de compositeur, c'est enfermer en studio, pas voir le jour, voir personne, être dans un milieu calme et sortir à des heures où tous les gens sont déjà rentrés chez eux. Et en fait, c'est vrai, je crois que s'il n'y avait pas les infos, je me serais peut-être pas rendu compte du confinement.
Est-ce que vous travaillez, on sait, pour des marques, pour des pubs ? Tous ces gens, c'est des industriels qui ont des choses à vendre. En ce moment, ils doivent se réinventer avec la crise. Est-ce que vous avez des commandes un peu particulières en ce moment ?
La communication est un peu différente. C'est vrai qu'il faut imaginer déjà l'après confinement. Il faut imaginer que en ce moment les priorités ne sont pas sur les voitures ou les écrans de télé ou ce genre de choses à acheter quoi. Donc voilà. Donc faut imaginer l'après. Et c'est ce qui est intéressant parce que ça oblige à réfléchir à une façon peut-être plus prioritaire et plus authentique et essentielle de communiquer, pas seulement sur le superficiel.
Il réfléchit.
Putain, ça
au
va être super chiant cette émission.
Il réfléchit au monde d'après en musique. Alex Jaffray, reste avec nous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Avec Eva, c'est devenu notre petit bonheur quotidien.
Le sexe, fort, furieux,
non,
partout
non, Eva,
et à tout.
Non. Notre coup de fil a une personnalité qu'on aime bien.
Oh, chouette.
Oui, c'est super aussi. Surtout aujourd'hui, puisqu'on est en ligne avec un garçon que j'adore, qui mélange humour et musique. A priori, quand on l'avait reçu en décembre dernier, je vous cache pas que je voyais pas trop ce que ça pouvait donner. Puis, à l'instant où j'ai savonné sur un mot, j'ai compris. Mon cher Alex Jaffray, connaissiez-vous la reprise de Just Because of You par Gilbert Montagneau ?
C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il est sourd. Hein. On peut pas dire ça, pardon. Hein.
Alex Jaffray, merci d'être en ligne avec nous cet après-midi.
Oh, j'étais drôle à l'époque. Je me souviens qu'avant tout ça, j'étais tellement drôle. Et vous aussi, on était beau. On était venus dans les champs et maintenant, c'est fini.
Pourquoi on va devenir très sérieux et très triste ? Non, c'est pas possible ça.
J'aimerais qu'il y ait le concerto d'Albinoni qui démarre derrière moi et qu'on puisse écouter. Qu'on puisse péter le moral de la France entière.
Vous l'avez pas dans votre sampleur là qui vous accompagne partout, votre machine à son ?
Ah non, j'ai mis que la compagnie créole et des trucs rigolos là. Dans les deux mois qu'on traverse, faut pas écouter de musique triste.
Hein. Qu'est-ce que vous aimez écouter en ce moment qui vous remonte le moral avec Jaffray ?
Alors, pour aller dans le sens inverse, c'est vrai que j'aime bien les morceaux un peu cafards.
C'est quoi un morceau cafard ?
Un morceau cafard. Je sais pas, vous écoutez Max Richter, par exemple, qui a fait un album de 8 heures qui s'appelle Sleep. Pas de la façon dont on est habillé, hein, Mathieu et moi, non, vraiment Sleep le sommeil.
Oui, d'accord. J'entends.
Avec deux.
Oui.
Et c'est vrai que c'est pas mal. Alors, ça fout le bourdon, mais quand vous l'avez déjà, en fait, vous touchez le fond et vous pouvez remonter. Oui.
Max Richter, que vous citez, Alex Jaffray, c'est un des plus grands compositeurs de musique de film au monde. et de séries aussi. Vous travaillez aussi pour le cinéma ou les séries, la télé?
Oui, on fait pas mal de choses. J'avais la chance de travailler sur le film L'Arnaqueur, de travailler avec sur Roman de Gare avec Claude Lelouch. Et là, en ce moment, on travaille sur un biopic pour TF1 sur la vie de Grégory Lemarchal. Vous savez.
Ah oui. Donc là, pas la Compagnie Créole l'inspiration musicale ne sera pas la Compagnie Créole, clairement pas là.
Voilà, exactement. Mais en même temps, il y a des passages plutôt enthousiastes et généreux. Mais c'est intéressant parce que normalement, quand on fait une musique de film, le producteur nous appelle 3 semaines avant le rendu en disant bah, on a 3 semaines de moins. Et là, étonnamment, pour la première fois de toute ma vie, on a 3 semaines de plus.
Et Alex Jaffray, on vous connaît aussi par rapport à toutes ces vidéos que vous faites, notamment sur YouTube, où vous nous faites découvrir des morceaux ou des petites anecdotes autour d'une histoire de la musique. La dernière que vous avez partagée, c'était quoi ?
C'était sur Prince, c'était pour les 4 ans de sa disparition et c'est la genèse de Purple Rain qui est assez incroyable, c'est-à-dire quand vous écoutez Purple Rain, vous dites oh là là quel génie et tout, c'est super, et en fait ça a été de Carib en Silla, c'est-à-dire qu'au début il a écrit le morceau devait durer 8 minutes, il l'envoie à Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac, qui fait non 8 minutes, ça fait trop de paroles à écrire, elle lui renvoie. Finalement il écrit des paroles un peu foireuses qui s'appellent I Can't Feel It Anymore, un truc comme ça, enfin genre la bleuette pourrie. Puis finalement il fait non mais je vais parler des deux trucs qui me plaisent, c'est-à-dire la pluie parce que c'est cafard et le pourpre. Il a écrit Purple Rain et boum, il joue à son groupe et en fait il y avait plus de chances que ça fasse un flop et pas un tube que ça fasse Purple Rain, c'est ça qui est incroyable.
Et comment vous l'expliquez que ça ait marché comme ça?
Parce qu'il m'a appelé, je lui ai filé 2-3
conseils. D'accord,
enfin,
voilà,
bon, ça m'embête d'en parler.
Il avait besoin de parler à un vrai professionnel, ce pauvre Prince. Alors dans cette période de confinement que nous vivons, les chaînes de télé rediffusent beaucoup de grands classiques du cinéma et je parle pas que des films de Louis de Funès. Vous, je crois, Alex, que c'est Ennio Morricone qui vous a fait rêver quand vous étiez enfant, qui vous a même donné le goût peut-être de la musique. Et c'est votre côté fan absolu. Vous nous en parlez avec émotion lors de notre dernière émission.
Bon, Ennio Morricone est à peu près à l'humour que Dupont-Aignan est au mariage pour tous.
Ennio Morricone. Cette comparaison avec Dupont-Aignan était restée dans les archives de notre émission. Est-ce que vous profitez du confinement pour revoir certains films avec des musiques d'Ennio Morricone?
Alors, ce que j'aime bien, c'est écouter les musiques et me refaire le film. Ce qui est assez fascinant, je sais pas si ça vous fait ça aussi, c'est qu'on a plus de temps d'écoute. Normalement, avec Spotify ou autre, vous écoutez un titre par-ci par-là. Là, je me suis repris à écouter, par exemple, un Pink Floyd d'un bout à l'autre ou une bande originale. Franchement, les deux faces, bim, bim, comme ça. Et c'est agréable d'avoir du temps d'écoute. Et ça, c'est une chance au milieu de tout ce bazar.
C'est une chance. On en profite et on continue de vous suivre dans Télématin. À quel rythme vous apparaissez dans Télématin? Vous savez, moi, je suis un peu nul en télé, j'ai découvert hier que Yves Calvin présentait plus C'est dans l'air depuis quelques années. Il faut me rafraîchir la mémoire.
Vous savez que Jean Noël est mort, Thomas, Mathieu, bah Thomas, n'importe quoi.
Vous non plus, vous n'écoutez pas la radio, visiblement. Donc Alex, on vous retrouve dans Télématin tous les...
Une fois par semaine, je donne des petits conseils pour justement occuper les enfants. Là, je vais faire un petit blind test avec les morceaux classiques. Vous savez, les morceaux dont on connaît, on peut les siffler sous sa douche, mais on ne sait jamais qui l'a écrit, comment ça s'appelle. Ouais. Voilà, donc c'est assez rigolo. J'essaie de faire des playlists pour faire du sport ou pour rester zen.
C'est important.
C'est assez drôle.
Merci beaucoup, Alex Jaffray, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et comme je sais que vous auriez été embarrassé de répondre à la toute dernière question que j'avais prévu de vous poser, je vous propose d'utiliser un son de vous la dernière fois pour y répondre. Ça vous décharge comme ça de la responsabilité. Alex Jaffray, pensez-vous qu'il soit opportun que suite à l'annulation de l'Eurovision, on garde Tom Leb et sa chanson pour représenter la France en 2021?
J'ai rien contre lui, mais je trouve dommage qu'il chante.
Merci pour votre franchise rétrospective, Alex. C'est sympa d'avoir répondu.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1,
l'équipe est sauvage.
Divorce, changement de travail, de job, retour à la nature, les changements de vie à l'issue du déconfinement, c'était le sujet d'Ève Roger cette semaine. On en a parlé donc avec Mathieu Noël et Eva Rock dans l'équipe est sauvage.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même en ce moment, vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, l'émission qui vous file des tuyaux pour mieux vivre le confinement et qui file aussi des tuyaux au fisc pour mieux évaluer la fortune personnelle et le patrimoine immobilier de certains journalistes d'Europe 1. Je pense notamment à Ève Roger, chef du service société, dont on savait déjà qu'elle roulait en Tesla, mais c'était qu'au détour d'un petit clip enregistré pour l'anniversaire d'Eva Rock que nous avons découvert où elle résidait, un impressionnant penthouse plein ciel.
Oh là là, mais je ne savais même pas que c'était possible que tout le monde le voit.
Et oui, s'est-elle exclamée juste avant de recevoir ce coup de fil de l'administration fiscale lui annonçant qu'elle était redevable de l'IFI. Alors Ève, j'ajoute à cette petite introduction ce que vous venez de me dire en antenne, à savoir que tu crois pas, je cite, tu crois pas si bien dire, le jacuzzi on l'a commandé, mais il n'est pas encore livré. Alors Ève, on compatit, parce qu'il y a vraiment des gens qui ont des problèmes difficiles.
Hein. Il est que gonflable.
C'est un jacuzzinet en somme. Alors Ève, aujourd'hui vous nous parlez d'un phénomène qui va se produire à partir du 11 mai. Beaucoup de Français vont changer de vie.
Oui, j'avais envie de vous démontrer cet après-midi que confiné ne rime pas forcément avec déprimé, mais plutôt avec regonflé. Alors on va commencer avec Camille. Camille, elle est mariée, elle a 3 enfants, attachée de presse au chômage depuis plusieurs mois. Avant le confinement, elle tournicotait, elle ne savait pas trop quoi faire de sa vie professionnelle. Et puis, voilà le confinement, elle fait l'école à ses enfants. Et là, c'est la révélation, écoutez.
Je me suis beaucoup amusée à leur faire faire leurs devoirs et à tout expliquer, notamment sur les travaux de maternelle, ça m'a bien amusée. Ça me trottait un peu dans la tête depuis quelques temps et j'avoue que j'ai pu mettre en application au quotidien cette nouvelle vocation et oui, j'ai décidé de franchir le pas et d'y aller.
Voilà, alors elle va devenir professeure des écoles. Alors on a demandé à son fils Léon, qui a 8 ans, est-ce que sa maman ferait une bonne maîtresse, en tout cas meilleure que la sienne visiblement, écoutez-le.
Elle est gentille, elle fait bien travailler. Elle est moins méchante. Quand on est en difficulté, elle nous aide, alors que la maîtresse, parfois, elle dit non, j'ai pas le temps. Mais quand elle dit non, j'ai pas le temps, ma maîtresse, c'est parce qu'elle veut pas. Hein.
Oui, je pense que la maîtresse, elle devrait peut-être penser à changer de vie, elle aussi, ou changer de métier pour la maîtresse.
Et en réalité, Ève, le confinement révèle des vocations.
Oui, c'est ce qu'on a entendu avec Camille, mais pour Alexandra, c'est une autre témoin, le confinement fait plutôt office d'accélérateur. Elle a 42 ans, un gros poste dans un fonds d'investissement, et une semaine avant le confinement, elle décide de démissionner. Alors ça n'a rien à voir avec le confinement, parce qu'elle aspire à autre chose, et voilà que le confinement lui permet de peaufiner un projet qui jusque-là n'existait que par bribes. Et son rêve, à elle, c'est d'ouvrir, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, une pousada dans un très beau pays où elle pourra aussi
Qu'est-ce
faire... Alors vous allez l'entendre, elle va vous l'expliquer. Dans ce pays, elle pourra aussi faire du kitesurf et du cheval, ses deux passions. Donc elle vous explique ce qu'est qu'une pousada.
Je pense partir au Brésil dès la levée du confinement pour aller trouver un terrain sur lequel construire en fait cette chambre d'hôte. Je profite du confinement en fait pour appeler beaucoup de Français qui se sont installés dans cette partie du Brésil. Mais le fait d'être confiné chez soi permet quand même aujourd'hui d'avancer au plus vite.
Voilà, donc on avance dans ses projets professionnels.
Alors on a parlé vie professionnelle, mais le confinement met en lumière aussi ce qui ne va pas dans notre vie privée.
Et voilà, on y arrive, oui, on en a déjà parlé ici. Hein. Le confinement révèle les situations, mais je vous l'ai déjà raconté, les couples qui allaient mal iront encore plus mal à l'issue du confinement, donc effectivement ça veut dire séparation, et puis ceux qui allaient bien, sans doute qu'ils iront encore mieux, donc ça veut dire sans doute des projets. Et puis les célibataires, excusez-moi, j'ai pas encore eu le temps de faire la chronique sur les célibataires, mais je vais m'y attacher avant la fin du confinement.
Je vous donnerai des petits tuyaux, vous inquiétez pas.
Voilà. Ok, va. Donc pour certains, le confinement provoque des interrogations profondes, presque métaphysiques. C'est vrai qu'on a le temps pour ça, on n'a plus les amis, le sport, les sorties pour nous distraire. Alors on se donne l'occasion peut-être de réfléchir et de se demander quel est le sens de notre vie, quelles sont nos vraies valeurs. Et c'est ce qui taraude en ce moment Alexia. Vous allez l'entendre, elle a 31 ans. Elle aussi, elle occupe un énorme poste dans une très très grosse entreprise. Mais ce premier mois de confinement a commencé à ébranler ses certitudes. Écoutez-la.
C'est amusant parce que certains me disaient carriériste avec de l'ambition. Et là, en fait, ça m'a vraiment permis de me dire que mon temps est compté. Il y a une urgence à vivre parce qu'en fait, à tout moment, ça peut reprendre. Ce côté toujours ultra pressé, ultra débordé. J'ai vraiment envie que ça change. Voilà, c'est le rapport à la nature, le rapport à mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, même mes collègues. J'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre et j'ai envie de profiter de ça. C'est-à-dire que si demain ma vie venait à s'arrêter, eh ben, j'aurai aucun regret.
Vous voyez, ça va loin. C'est-à-dire, j'ai envie de vivre et pas de survivre. Oui.
Ève, j'ai l'impression qu'on se fait tous la même réflexion. Je pense que la productivité, la croissance ne va jamais repartir parce que la productivité des Français ou du monde entier va s'effondrer. On n'en a plus rien à foutre, en fait, Ève. On a retrouvé la saveur de la vie, les choses importantes, et je crois que la productivité horaire va s'effondrer.
C'est possible. Donc, ça veut dire aussi qu'on a tous des aspirations, c'est-à-dire peut-être changer de métier, peut-être déménager à la campagne. Je ne sais pas si vous l'entendez autour de vous.
Oui, c'est
nous dit ça, ouais. Pour une vie plus apaisée, plus proche de la nature. Alors pour terminer cette chronique et pour vous donner quand même de l'espoir, je vais vous faire entendre Céline Tran, elle est psychiatre à Paris, et je lui ai demandé justement comment ne pas piétiner nos rêves une fois déconfinés.
Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est vraiment écrire nos rêves, on parle à notre conjoint, on parle aux amis, comme ça en fait, ils vont peut-être nous rappeler ce qu'on leur avait dit. Vous voyez, rappelle-moi ce que j'avais dit pendant le confinement, tu te rappelles ce que je voulais faire ? Plutôt que repartir de nouveau dans effectivement les vieilles habitudes de vie et puis taire toutes nos aspirations, laisser enfuir tous nos rêves au fond de nous.
Voilà, ouais, il ne faut pas laisser enfuir tous nos rêves. Donc on a entendu, c'est enregistré Mathieu, ce que vous avez dit, ce que vous voulez faire après, arrêter la productivité, aspirer à autre chose.
Je sais, vous me le ressortirez.
Donc, on vous le relancera. Moi, je n'ai pas besoin d'une maison à la campagne, vous le savez, j'ai une belle terrasse. Non, j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien moi, parce que j'aimerais bien continuer à télétravailler un peu, mais sauf quand je suis avec vous, parce que j'aimerais vraiment bien vous retrouver dans le studio.
Oui, moi aussi, moi je vous attends, parce que je suis toute seule, là, j'en ai marre, hein, franchement.
Voilà. Mais Eva, je suis là par la pensée.
Oui, mais j'aimerais bien vous voir physiquement, tous autour
vous
de moi.
Vous aimeriez me voir physiquement ?
Oui, Cotinette. Tous.
Merci beaucoup, Eve. Au fait, vous nous avez même pas dit comment vous viviez le confinement. Ça se passe comment chez les Roger ?
Mais on est tous bourrés de...
comme d'habitude, en fait. Pas beaucoup de différence. Hein.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, avec 16h-18h.
Avec Mathieu Noël, Eva Rock et la chauve-souris. Petite bête fascinante, à la fois capable de servir de réservoir à virus, mais qui possède aussi un super système immunitaire pour leur résister. Système immunitaire unique au monde et sur lequel est revenu notre vétérinaire Farah Kasri.
Vous écoutez l'équipée sauvage confinée, la folle compétition qui oppose chaque après-midi les plus beaux spécimens journalistiques d'Europe 1. Nous sommes dans la deuxième manche qui oppose notre expert animalière Farah Kasri, la plus sexy des vétérinaires, à Mathieu Charrier, notre expert cinéma, le plus viril des journalistes d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour aussi mon grand. Et Farah, c'est vous qui ouvrez le bal avec une chronique qui s'annonce passionnante sur un animal dont on parle beaucoup depuis le début de l'épidémie, la chauve-souris, un animal sur lequel on entend un peu tout et n'importe quoi, n'est-ce pas Mathieu ?
J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée.
Oui, non Mathieu, c'est intéressant, mais on va plutôt écouter Farah qui s'y connaît mieux en chauve-souris. Racontez-nous Farah, cet animal au cœur de toutes les polémiques actuellement.
Bon, mais c'est vrai que bon, c'est un réservoir à virus, mais il faut pas s'arrêter à cette caractéristique. Il faut savoir qu'il existe 1400 espèces de chauves-souris dans le monde. Ça représente un quart des mammifères connus. Et en France, il existe déjà 34 espèces. Par exemple, en Camargue, dans le sud, il y a la plus importante colonie de grands rhinolophes. Ce sont des chauves-souris qui mesurent à peu près 45 cm d'envergure.
Oui, quand même.
Elles sont assez belles et toutes les chauves-souris, hein, quelle que soit l'espèce, sont assez fascinantes. Il faut savoir que certaines sont des frugivores, c'est-à-dire qu'elles vont manger des fruits. D'autres sont insectivores. Autrement dit, elles vont contribuer à la pollinisation des plantes et elles vont protéger contre certains insectes comme les moustiques. Et ce n'est pas tout, parce qu'il faut savoir que ce sont les seuls mammifères à pouvoir voler. Elles chassent par écholocation. Leur corps ne vieillit pas. C'est le mammifère qui a la plus grande longévité par rapport à son poids. Si vous prenez par exemple une petite chauve-souris qu'on appelle le murin de Brandt, qui pèse à peine 7 grammes, eh bien cette petite chauve-souris va vivre 40 ans.
Invraisemblable. Et pourquoi vous dites que leur corps ne vieillit pas ? Ça paraît fou. Comment ça, leur corps ne vieillit pas ?
En fait, le corps ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'au niveau de leurs cellules, l'ADN ne s'effrite pas. Vous savez, au bout de l'ADN, vous avez ce qu'on appelle les télomères. Les télomères, vous pouvez comparer ça aux petits bout de votre lacet qui empêche votre lacet de s'effilocher. Et bien, si le télomère, si le bout de lacet reste, et bien votre ADN ne va pas s'effilocher, ne va pas se détruire.
Ah oui.
Et c'est pour ça qu'on dit que leur corps ne vieillit pas.
Et ça, Farah, c'est propre aux chauves-souris. Nous, par exemple, Farah, ça s'effrite.
Oui, absolument. Le nôtre, nos télomères raccourcissent d'année en année. C'est ce qui fait qu'on vieillit, que nos cellules vieillissent. Alors que chez les chauves-souris, ça n'existe pas. Leurs télomères restent, persistent. À un moment donné, elles vont mourir, forcément. Mais pas de vieillesse. C'est autre chose.
C'est incroyable.
Ils ont une durée limite qui est différente de la nôtre.
Et ça explique pourquoi Batman est le plus fort des super-héros. Voilà, elles ont aussi une santé à toute épreuve, donc ces chauves-souris, comment elles survivent au virus mortel qu'elles renferment?
Alors en fait, il y a beaucoup de pistes de recherche en ce moment. Il y a certaines équipes qui travaillent justement sur l'ADN. Il y a une autre équipe qui travaille sur le système immunitaire des chauves-souris, comme à l'université de Dublin. Et il faut comprendre en fait un principe, c'est que habituellement dans le corps d'un mammifère, y compris celui de l'être humain, quand on est face à une attaque virale, le système de défense va envoyer des cellules soldats qui vont libérer des molécules inflammatoires pour détruire le virus. Si je simplifie au maximum, c'est comme si j'utilisais un peu de feu pour brûler le virus. Le problème, c'est que parfois, le feu devient un incendie qui va détruire et qui va s'attaquer au corps. C'est un peu ce qui se passe avec le coronavirus du Covid-19 vers le 8e-10e jour. Le système de défense s'emballe, le corps est sous le feu d'un orage inflammatoire déclenché par notre système de défense, eh bien les chauves-souris, elles, dans leur organisme, elles ont à la fois la maîtrise du feu, elles vont aussi avoir une sorte de lance à incendie pour calmer très vite l'inflammation. Ils ont ce qu'on appelle un équilibre entre des molécules chimiques qu'on appelle les cytokines et les interleukines. Bref, retenez simplement que sur ce principe-là d'équilibre, eh bien il y a des stratégies thérapeutiques qui sont justement à l'étude en ce moment pour traiter le Covid-19, et si on arrive un jour à percer le mode de défense des chauves-souris, eh bien on pourra peut-être résister à tous les prochains virus auxquels nous allons être confrontés. Donc il faut vraiment les protéger.
On les aime les chauves-souris,
moi, je les aime beaucoup, hein.
Vous avez compris, Mathieu?
Oui. Même moi, mais j'ai compris, et finalement même moi, du coup je vais aimer les chauves-souris, ça ne veut pas dire pour autant que je vais leur faire des bisous, car je les trouve toujours aussi moches. Merci beaucoup Farah Kasri. Mathieu Charrier, une réaction peut-être?
J'habite au 5e sans ascenseur. Je vais te dire, j'ai un code à la porte en bas et un interphone. Alors je vais te dire, la chauve-souris, elle peut toujours se pointer. Tu vois.
Évidemment Mathieu, bah, tant mieux si ça ne vous fait pas peur.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, toujours confiné avec Eva Rock aussi. Et si le confinement de la moitié de l'humanité rend le ciel plus clair et les prévisions météo plus difficiles à réaliser, la température mondiale continue pourtant de grimper. Et pour la première fois, on va quand même voir ce qu'il faudrait faire. Explication avec notre expert scientifique Alain Sirot.
Chaque après-midi, même confiné, même à distance, les journalistes d'Europe 1 continuent de se disputer le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Et justement, notre prochain concurrent est tout simplement l'actuel leader du championnat européen, Alain Sirot. Vous êtes simply the best, évidemment. Vous êtes aussi notre expert scientifique. Et attention, car aujourd'hui, vous vous aventurez sur les terres d'une science très pointue qu'on appelle la météorologie et dans laquelle Europe 1 compte un ponte en la personne de Laurent Cabrol, dont les techniques de prévision météorologique font appel aux toutes dernières innovations technologiques.
Je suis avec Gribouille, mon chat. Il n'a pas passé la patte derrière l'oreille, donc à mon avis, il ne pleuvra pas.
Ah oui, d'accord.
Donc attention, bah voilà. Alain, vous parlez sous le contrôle du professeur Cabrol.
Et de Miam.
Aujourd'hui, vous vouliez écouter vous vouliez évoquer l'impact du confinement sur la météo et à plus long terme sur le climat.
Oui, parce que Laurent Cabrol, lui, a un instrument important, c'est le doigt mouillé. Mais pour les scientifiques, il y a des ordinateurs, des modèles. Et ces modèles sont alimentés par des informations qui proviennent de l'extérieur. Et c'est des mesures. Et en fait, un des effets surprenants du Covid, c'est la détérioration des prévisions météo. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une baisse du trafic aérien qui est extrêmement importante et qui prive les agences météo d'à peu près 10% de données qui alimentent les modèles. Vous savez, les avions, c'est à peu près 800 000 observations par jour qui sont transmises aux météorologues pour mesurer les températures, les pressions, la vitesse, la direction des vents, puis aussi donner des informations sur la composition de l'atmosphère, l'ozone, la vapeur d'eau, le CO2. Et en fait, on a une baisse graduelle de fiabilité des prévisions, tout simplement parce que il y a plus ces informations. Et ces informations qui donnent de quoi mouliner en quelque sorte les ordinateurs font baisser les prévisions d'à peu près 3% dans l'hémisphère nord. Alors, vous dites 3%, c'est pas beaucoup, sauf que quand vous avez une tempête qui arrive sur la côte,
ça
peut faire la différence.
Ouais.
Et puis il y a pas que ça, il y a aussi les océans. Dans les océans, vous avez des bateaux, vous avez des gens qui mesurent des données marines. Vous savez, l'océan, c'est 2/3 hein, de la superficie de la Terre, pour la température de l'eau, pour la direction des courants, etc. etc. Donc, il a fallu réagir, et Météo France, par exemple, a doublé la quantité de ballons-sondes qui sont expédiés dans l'atmosphère pour mesurer tout ça. à 20 ou 30 km d'altitude, mais globalement, quand même, tout ça, ça affecte l'analyse, la prévision, les avis et les alertes météo. Et c'est très surprenant de voir, effectivement, cet impact sur la prévision.
Et alors, le virus, Alain, gêne les prévisions météo, mais est-ce que pour le climat, ça change quelque chose, le climat global?
Alors ça, justement, alors ça, c'est terrible parce que non, pas du tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de répit. Et très clairement, les dernières
pourtant,
annonces
les émissions
eues,
de CO2 ont baissé,
semaines,
tout ça.
Ben non. En fait, la quantité de gaz a baissé, l'émission, ouais. Mais les températures qui sont vraiment, vous voyez, c'est le thermomètre, hein, à l'exception de quelques régions comme l'Atlantique Nord en ce moment, mais sur la grande majorité de la planète, les hausses de température continuent fortement. Si vous prenez la Russie ou même en ce moment de la mer Caspienne à la côte Pacifique, on voit et on assiste à des hausses jusqu'à 8 degrés au-dessus des moyennes climatiques. Le mois de mars que nous venons de vivre a été le plus chaud depuis 1880. La banquise arctique elle-même se rétracte plus que d'habitude. Et on voit bien que l'accord de Paris, conclu en 2015, qui stipule qu'il ne faudrait pas atteindre plus de 2 degrés supplémentaires et se rapprocher le plus possible des 1,5 degré, on y est presque déjà, puisqu'on est au-delà de 1,2 degré.
Mais pourtant, Alain, ce virus nous dit quelque chose sur notre avenir. Pour la première fois, on voit ce qu'il va nous falloir faire pour éviter un réchauffement climatique catastrophique. En quoi ?
Alors ça, c'est extrêmement important, vous avez raison. En raison de l'arrêt des activités, transport, industriel, etc., on voit aujourd'hui une baisse des émissions de gaz à effet de serre d'environ 4%. Ça, c'est ce qu'on voit. Hein. Et si on veut tenir l'augmentation des températures à 2 degrés maximum d'ici à 2100, il va falloir, tenez-vous bien, baisser les émissions planétaires de 4% par an. C'est même 4%, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. 4% chaque année par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un Covid supplémentaire tous les ans.
Oula, oui.
Vous voyez ce qu'il va falloir faire comme effort. Et ça, c'est ce que le virus nous permet de constater aujourd'hui, c'est que on se rend compte tous de l'intensité de l'effort, de sa constance qu'il va falloir porter pour les années qui viennent. Si on veut tenir les objectifs de Paris, il va falloir que ça intervienne sur les transports, l'agriculture, le commerce. Il va falloir diviser les émissions par 4. Et c'est d'autant plus important que finalement, on mesure chaque jour davantage le lien qui existe entre le changement climatique et l'émergence de nouveaux virus comme le Covid.
Eh bien, merci Alain Siroux. Belle chronique, même si question météo, vous avez quand même encore pas mal de leçons à prendre avec notre expert Laurent Cabrol, notamment en matière de concision.
Je me tourne vers Laurent Cabrol pour la météo.
Et pour une journée d'ensemble, voilà.
Voilà, apprenez la concision à l'école des plus grands, celle de Laurent Cabrol. Merci quand même Alain Siroux.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h, l'équipe est sauvage.
17h42, allez, on se souvient tous de cette phrase, il n'y a pas d'argent magique, signé Emmanuel Macron face à une aide-soignante qui déplorait le manque de moyens dans les hôpitaux. Eh bien en fait, l'argent magique, ça existe, on l'a inventé. Explication avec Axel de Tarlé, la compétition se poursuit avec Mathieu Noël.
Tonifiez vos neurones, subjuguez vos zygomatiques, vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui continuent de se mettre sur la gueule en duplex de chez eux. Des journalistes qui, à ce stade de la saison, l'ont compris. Pour l'emporter, être élu chroniqueur du jour, il ne suffit pas d'être bon. Encore faut-il également rabaisser ses rivaux. Une nécessité qu'a parfaitement intégrée Axel de Tarlé, comme il l'a encore démontré jeudi en s'adressant aux auditeurs, comme il se serait adressé à la France dans un débat du second tour de la présidentielle.
Le jury saura faire le tri entre une brillante analyse géostratégique sur notre rapport à la Chine et une chronique sur une start-up allemande qui a inventé un lave-fesses.
Et oui, tapiner fait partie de la stratégie gagnante dans cette émission. Axel de Tarlé, avec quel sujet comptez-vous encore triompher aujourd'hui? Je crois que vous êtes très très content de votre sujet du jour.
Non mais d'abord, si je peux me permettre, j'ai une plainte en concurrence déloyale contre monsieur Mbaché Arthur. C'est pas une chronique journalistique, c'est un sketch humoristique qu'il a fait. Si vous voulez, je suis en compétition face à Pierre Palmade. Parce que moi-même, je me suis surpris à me marrer quand il me décrit les fesses de Sonia. Là.
Ah ça oui, c'est ce que vous avez retenu. Essayez malgré tout de nous divertir, Axel, mais de nous informer aussi, puisque c'est votre atout.
Alors, donc, ma chronique consiste à savoir d'où viennent ces centaines de milliards qui pleuvent sur la France depuis que nous sommes confinés. confinés. Hein. Oui. Or, je vous rappelle, c'était, je vais vous repasser un petit extrait d'Emmanuel Macron. Il y a 2 ans, justement, il était interpellé au CHU de Rouen par une infirmière sur le manque de moyens. Mmh. Et écoutez ce qu'avait répondu à l'époque Emmanuel Macron.
Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique.
Et oui, il n'y a pas d'argent
ça,
magique.
Ça, c'était le monde d'avant. Dans le monde d'avant, il n'y avait pas d'argent magique. Pourquoi? Parce que quand l'État français empruntait de l'argent, il empruntait cet argent auprès d'épargnants, des épargnants normaux, de vous et moi. Vous savez, quand on va à la banque, on met de l'assurance vie, bah, cette assurance vie, ensuite, il est prêté à Emmanuel Macron, enfin, au gouvernement français, qui doit nous rembourser. Dans l'ancien temps, les épargnants demandaient à être remboursés parce que c'est des épargnants normaux, comme vous et moi, qui avons de l'assurance vie et qui tenons à ce que l'argent nous soit remboursé. Ça, c'était l'ancien monde.
Et là, on a changé de paradigme.
Exactement. On n'emprunte plus à des épargnants normaux, on emprunte à la Banque Centrale Européenne. Et elle s'est créée de l'argent magique.
Alors, comme dans la Casa des Papel, elle fait des billets.
Comme dans la Casa des Papel, elle s'est créée de l'argent magique. Et figurez-vous que hier, en ouvrant le journal du dimanche, page 23, le magicien, il a révélé son tour de magie. On a expliqué comment... en général, un magicien qui crée l'argent magique, il dit pas comment, il donne pas son tour.
Alors,
là, il le fait. Donc, je vous lis sa phrase, comment on crée l'argent magique. Il suffit, explique le magicien Villeroy de Gallo, de cantonner la dette liée au coronavirus pour ne la rembourser que dans plus longtemps. Alors, ça a l'air technique, ça.
Ah bah c'est bien comme ça, ce sont les jeunes qui vont payer. Dans beaucoup plus tard.
Pas. Imaginez quelqu'un qui vous dit, vous savez, votre dette, là, vous pouvez me la rembourser dans plus longtemps. Et imaginez que... Vous dites ça à l'échelle d'un pays.
Bah, vous ne la remboursez pas. Gros,
vous... ouais. Ben voilà, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est quoi l'argent magique? C'est que vous empruntez à quelqu'un à qui, au fond, vous ne devez pas rembourser. Et en plus, ce quelqu'un, il vous prête à taux zéro. Donc, si vous laissez de l'argent infini, et c'est de l'argent qui ne vous coûte rien, c'est comme un distributeur de billets de banque qui, en permanence, vous dégagerait des billets. Et vous savez, vous n'avez pas à les rendre, ces billets. Et en plus, ça ne vous coûte rien de les emprunter. Voilà, c'est... de l'argent magique.
Axel, j'ai 2 questions, Axel. D'abord, vous nous avez donné le nom de ce magicien, mais qui est exactement ce magicien?
Alors, c'est la Banque Centrale Européenne qui est à Francfort, c'est Madame Christine Lagarde.
Oui.
Mais dans chaque pays, on a les représentants locaux.
D'accord.
Et en France, c'est la Banque de France qui est représentée par Villeroy de Gallo, mais qui siège à la Banque Centrale Européenne. Et donc là, hier, dans le JDD, il nous a révélé son tour de magie. Comment il crée cet argent magique?
Et pourquoi cette magie, ils l'ont pas faite, pardon pour la question naïve, mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Quand on avait
excellent.
Déjà nos économies qui étaient...
Parce que si vous voulez, il y a un petit problème avec ce tour de magie, c'est que si on le fait une fois, ça va. Mais si vous voulez, en France, en ce moment, on ne fait rien à part de l'argent magique. Donc vous comprenez que si dans un pays vous ne fabriquez rien à part des billets de banque, c'est pas comme ça que vous allez vous nourrir. Donc si vous créez que de l'argent, en gros c'est ce qu'on fait en ce moment en France, on crée quoi? On crée des billets de banque, hein. Et que vous n'avez rien en face, cet argent il vaut rien.
Et bien surtout, c'est plus qu'il vaut rien, c'est que moi je me souviens là d'un cours d'économie dans ma jeunesse, il va y avoir de l'inflation si on crée...
Ben voilà.
Donc l'inflation, si la baguette de pain nous coûte 5 euros quand on sort du confinement, on va avoir l'air malin.
C'est ce qui se passait dans les années 20 en Allemagne. Tout ce que fabriquaient les Allemands, ils étaient obligés de l'envoyer en France, hein, puis c'était les réparations. Du coup, l'Allemagne était un pays qui ne produisait rien et qui du coup faisait que de produire de l'argent. Et ça s'est terminé avec, vous savez, la fameuse brouette de billets de banque pour aller acheter une miche de pain à la boulangerie. Et c'est bien pour ça que les Allemands, vous savez, qui ont le souvenir de cette époque, on dit gravé dans leur ADN, ils sont très contre cet argent magique de la Banque Centrale Européenne. Mais bon, là, face à la catastrophe du virus, ils ont avalé cette couleuvre qui est de permettre aux États de se financer quasi directement, hein, il y a un petit intermédiaire, mais c'est quasi directement auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais si vous voulez, ça change tout, parce qu'autrefois, là, comme je le disais, le gouvernement empruntait auprès de Français normaux qui attendaient à être remboursés. Maintenant, on emprunte de l'argent auprès de gens qui, comme le dit Villeroy de Gallo, « Oh ben écoutez, vous me rembourserez plus tard, c'est pas grave, vous me rembourserez quand vous aurez le temps. » Bah voilà, donc en gros, on rembourse plus. Quoi.
On rembourse plus, merci.
C'est moins drôle, mais c'est quand même fichtrement plus intelligent que le cours de danse de Julian Bacher.
C'est pas pareil.
Voilà. Mais
il est dégueulasse. Mais Axel, vous n'avez pas besoin comme ça de rabaisser votre concurrent. Votre chronique était bien.
J'essaierai de parler de la BCE dans mon prochain papier.
Voilà.
Bon, à mon avis, Arthur Elmachet qui parle de la BCE, ça peut être drôle.
Ouais.
On peut se marrer aussi. Merci beaucoup, Axel de Tarlé.
16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. Europe 1, Émilie Mazoyer.
Toute la journée, la musique vous accompagne sur la radio ouverte.
Bonjour à tous, c'est Corinne. Un petit peu de musique pour faire danser vos cœurs en ces temps si particuliers.
Salut à tous, c'est Grand Corps Malade.
Moi c'est Cali et je vous embrasse très fort. Je pense à vous.
Salut Europe 1, c'est Pomme. Je suis confinée comme vous tous, j'espère.
Salut tout le monde, ici c'est Flavia Coelho.
Bonjour à tous, c'est Benjamin Biolay. Je vous embrasse tous, enfin de loin forcément.
N'oubliez pas, restez à la maison, tranquille.
Nous, on se retrouve demain à 20h en direct de mon salon pour 2 heures de musique qui font du bien.
Europe 1, radio ouverte.
Alors, restez chez vous, portez-vous bien et lavez-vous les mains.
La suite et fin de l'équipe est sauvage, c'est dans un instant avec Mathieu Noël et Varrock et le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier. On va parler de Netflix qui se met au film Patrimoine. C'est symboliquement, en tout cas c'est fort en termes d'image.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec le dernier sujet du jour, Mathieu Noël et Varrock et donc le sujet de Mathieu Charrier.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes continue 2 heures pour vous déconfiner par la pensée et noter les meilleurs éléments de la rédaction d'Europe 1. Notre ultime concurrent du jour est à notre championnat ce que l'AS Monaco est à la Ligue 1. Un grand nom tombé peu à peu dans l'oubli et qui risque aujourd'hui la relégation. C'est dommage, Mathieu Charrier est un garçon attachant et complexe. Freud disait que le lapsus permet de comprendre l'obsession secrète d'un homme. Eh bien avec Charrier, il se serait régalé. Écoutez comment, quand il présente un journal, Mathieu prononce le mot « baisse ». Et c'est sans trucage.
Le nombre de malades admis à l'hôpital baisse depuis 5 jours. Celui des admis en réanimation est également en baisse depuis une dizaine de jours.
Et oui, aucun doute
enfin,
pour lui.
Mathieu,
en ce 38e jour de confinement, la tendance est clairement à la baisse. Mathieu Charrier... Quittons l'actu médicale où on vous sent pas très à l'aise pour parler cinéma. Ou plutôt.
Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas un pari
vous
avec savez, un ami, peut-être.
Oui, vous avez fait un pari, c'est pas possible.
Ouais, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça.
Je veux bien vous croire.
On parle cinéma, on parle plutôt Netflix, Mathieu Charrier, aujourd'hui. Netflix qui change de stratégie.
Exactement. Puisqu'il y a 2 ans, Ted Sarandos, le célèbre patron de Netflix, expliquait que les catalogues de films de patrimoine n'avaient, je le cite, pas de modèle économique sur Netflix. Alors le monde du cinéma se disait « Ouf, on va enfin pouvoir continuer à exploiter ces films-là, même si c'est pas ceux qui rapportent le plus d'argent. » Sauf qu'en début de semaine, patatras, Netflix annonce qu'ils ont conclu un contrat avec MK2 pour diffuser un très large catalogue de films de l'histoire du cinéma.
Et quels films plus précisément, Mathieu ? Est-ce qu'on a des
Alors déjà, il y a une douzaine de films de Truffaut, dont Les 400 coups, Le dernier métro. Il y a certaines comédies musicales de Jacques Demy aussi, dont Les parapluies de Cherbourg. Il y a du Chaplin, du David Lynch, du Xavier Dolan. Déjà, 50 films que l'on retrouvera sur Netflix dans quelques jours. Et puis les négociations continuent pour y ajouter du Chabrol notamment. Alors pour le moment, c'est un contrat qui est conclu pour 1 an et qui ne concerne que la diffusion de ces films sur le Netflix français. Mais c'est un contrat renouvelable. Autrement dit, Netflix va voir ce que ça donne et puis décider ou non de poursuivre l'aventure en fonction du taux de satisfaction de ses abonnés.
Mais est-ce que ça a poussé Netflix à changer de stratégie comme ça ?
Alors c'est difficile à dire. Ce qu'on sait, même si les détails de ce contrat sont bien sûr tenus secrets, c'est que la vente des droits sur ces films de patrimoine, en général, ça coûte pas très très cher parce que c'est des films qui ont déjà été rentabilisés, donc ça va pas chercher très loin. Ensuite, ça permet à Netflix de continuer à s'installer dans le monde du cinéma, puisque vous savez, il fait plus aucun doute que Netflix est installé dans l'univers des séries, mais dans le cinéma, ils doivent encore faire leurs preuves. C'est pour ça qu'ils font les films d'Alfonso Cuarón, c'est pour ça qu'ils font les films de Scorsese. Ils espèrent à chaque fois, ils font campagne pour décrocher des Oscars, même si pour l'instant, ils n'en obtiennent pas tant que ça. Donc évidemment, acheter des films de patrimoine, en termes d'image, comme je vous l'expliquais, c'est pas très cher, mais en termes d'image, c'est très efficace, puisque vous voyez des articles partout sur la presse qui disent que Netflix, ça y est, se met au film de patrimoine.
Mais est-ce que les gens vont regarder ça sur Netflix?
C'est hyper dur à dire.
Alors, c'est vrai qu'on peut en douter quand on sait que la grande majorité des abonnés sont même pas allés au bout du dernier Scorsese.
Oui, qui durait 3h30 quand même.
Il était long, mais moi, par exemple, qui suis un cinéphile, j'ai voulu aller au bout. Ouais. Netflix avait communiqué en disant que, je crois que dans le souvenir, c'était 4 abonnés sur 5 qui s'étaient arrêtés en cours. Donc, est-ce qu'ils auront envie de regarder des films de patrimoine, pour certains en noir et blanc? Difficile à dire. En même temps, avant de céder les droits de ces films à Netflix, MK2 avait déjà tenté l'expérience en vendant 120 films à Amazon Prime, qui est l'un des concurrents de Netflix. Donc, on peut quand même se dire que si toutes ces plateformes s'y mettent, c'est sans doute qu'il y a un petit modèle économique derrière. Alors, pour l'anecdote, quand on se rappelle que Truffaut estimait qu'un film, pour être réussi, devait exprimer une idée du monde et une idée du cinéma.
Comme on dit,
il doit se retourner dans sa tombe s'il voit qu'aujourd'hui ses films se retrouvent sur Netflix, regardés sur des smartphones, des tablettes iPad ou des ordinateurs.
Et justement, Mathieu, quelle est la réaction du milieu du cinéma ?
Mitigé, hein, comme toujours sur les questions autour de Netflix, mais c'est vrai que symboliquement, ça arrive à un moment où les salles sont fermées, on le sait, à cause du confinement.
Contexte, c'est difficile.
Donc le milieu du cinéma, il est très inquiet. Certains films, notamment Forte avec Mel Rabedia, vous en avez parlé, ils n'ont pas pu sortir en salle, ils sont sortis directement sur les plateformes, en l'occurrence Amazon Prime. On sait aussi, Netflix a annoncé hier qu'ils ont gagné 16 millions d'abonnés dans le monde depuis le début du confinement, c'est un bon 10% de leurs abonnés. Donc c'est vrai que le milieu du cinéma, il regarde tout ça très inquiet, il se dit, est-ce que les Français auront envie de retourner dans les salles après la fin du confinement, au moment du déconfinement, si en plus on a une offre sur Netflix toujours plus étoffée, si en plus on leur met des films de patrimoine, si en plus il y a des films qui sortent directement sur Netflix, sur Amazon Prime et sur les autres, c'est vrai que forcément ils regardent ça très très inquiet le milieu du cinéma.
Ouais, après en même temps les films de Truffaut par exemple, si on prend que Truffaut, ils sont très peu
alors ils sont très peu, c'est vrai,
salle, mais dans les cinémathèques, bon, c'est quand même rare.
C'est vrai, mais il y a quand même une exploitation de ces films dans certains cinémas d'art et d'essai, il y a le festival de Thierry Frémaux tous les ans, Festival Lumière à Lyon qui remet à l'honneur des films de patrimoine. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui cette petite niche des films du patrimoine, elle appartenait plutôt, on va dire, au milieu du cinéma et au milieu cinéphile, qui regarde plutôt Netflix en faisant le nez. Et donc là, quand ils se rendent compte que même sur ces programmes-là, Netflix et les autres y vont, ils se disent qu'est-ce que tout ça va donner, quoi.
Oui, c'est assez malin, finalement.
Et je tenais juste à préciser, Mathieu Charrier, qui n'a pas marqué de points depuis décembre, j'ai quand même fait un grand chelem pendant ce confinement,
vrai,
que visiblement personne ne souligne.
Si, vous avez fait un grand chelem.
Vous avez rectifié les choses et c'est bien, Mathieu Charrier, il faut être précis. Merci à vous.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Et ainsi s'achève notre compilation du week-end. 2 heures d'infos et de bonne humeur. On retrouvera Mathieu Noël dès demain, 16h sur Europe 1.